L'inégalité est un choix, telle est l'idée phare qui traverse tout votre livre, Joseph Stiglitz, La Grande Fracture, les sociétés inégalitaires et ce que nous pouvons faire pour les changer, publié aux éditions des Liens qui libèrent. Vous avez donc reçu le prix Nobel d'économie en 2001, vous êtes ancien conseiller économique auprès de Bill Clinton du temps où il était président des États-Unis et ancien chef économiste de la Banque mondiale. Vous menez depuis des années déjà un combat contre l'accroissement des inégalités dans la société américaine et dans le monde. Et en studio également pour vous interroger, Philippe Manière, Annabelle Grelier de la rédaction de France Culture et Brice Couturier. Brice, c'est à vous.
Ben écoutez, je voudrais revenir sur cette affaire des inégalités en France. On en parlait tout à l'heure avec Philippe Manière. C'est vrai que la France a été une exception jusqu'en 2008-2009. C'était un des très très rares pays de l'OCDE, je crois qu'il n'y en avait que trois, qui n'avait pas vu des inégalités se creuser au cours des 30 années précédentes. Or, depuis... Alors, les chiffres sont très clairs. En 2008, l'indice Gini, qui mesure donc les inégalités, je rappelle, l'indice Gini, c'est si on a zéro, ça veut dire que tout le monde gagne exactement la même chose, les revenus sont absolument parfaitement répartis. L'indice 1, ça veut dire qu'une seule personne gagnerait tout et les autres rien. Alors, entre 1 et 0, nous on était situés à 0,26 en 2008 contre 0,30 pour l'Allemagne, 0,32 pour l'Italie, 0,33 pour le Royaume-Uni. Effectivement, depuis 2009, cet écart s'est creusé en France. Aujourd'hui, nous sommes à 0,301, pour être précis, en 2013, c'est le dernier chiffre communiqué. Nous sommes beaucoup plus égalitaires que l'Espagne, la Turquie, la Grèce ou la Lettonie, mais nettement moins que la Norvège, la Slovaquie et même que l'Allemagne, selon l'OCDE. Or, notre pays a le plus haut niveau de dépenses sociales de l'OCDE. Nous sommes à 32% pour une moyenne de 21,6%. Alors ma question, Joseph Stiglitz, c'est, vous êtes un partisan de la régulation du capitalisme, on peut pas faire mieux en ce domaine que la France, encore une fois, 32% de redistribution sociale, et pourtant, les inégalités se sont creusées dans le même temps. Alors à quoi bon réguler l'économie si les inégalités continuent de croître, et qu'est-ce qui se passe ?
Le problème fondamental, c'est la récession. Lorsque on a une récession, les gens sont au chômage, et quand il y a beaucoup de chômage, il y a plus de pression sur les salaires. Ça fait du mal aux gens qui sont en bas de l'échelle. Les bénéfices augmentent parce que les salaires diminuent. La redistribution est très importante, mais encore plus important que cela, c'est s'assurer que la distribution des salaires avant les impôts et les transferts est égalitaire. Et c'est là où les règles du jeu sont importantes. Et c'est là où maintenir l'économie au travail, au plein emploi, est absolument essentiel. Et c'est là où la France ne réussit pas, là où elle échoue. Et le problème, c'est cette austérité. C'est le problème, c'est aussi l'euro.
Vous avez eu des propos assez durs hier, Joseph Stiglitz, puisque vous avez expliqué que le gouvernement socialiste en France n'a pas été capable de tenir tête à l'Allemagne. Expliquez-nous pourquoi et expliquez-nous quelles sont les conséquences, selon vous, de cette faiblesse du gouvernement français.
Très franchement, je pense qu'il y a beaucoup de crainte ici. La crainte, c'est que, à un point de l'avenir, la France aura besoin d'aide. Les marchés sont très instables. On parlait des marchés instables en Chine, mais il y a aussi des marchés instables ailleurs. L'argent, eh bien, s'en va. Il doit y avoir de l'aide. Et la crainte, c'est que si l'Allemagne dit « Ah, vous avez mal agi, vous n'avez pas été très coopératif », l'Allemagne va imposer des conditions beaucoup plus dures et peut-être refusera l'aide. Et à ce moment-là, la France sera dans une situation très difficile. Un des points soulevés en Grèce, c'est que la lutte sur la Grèce, elle ne porte pas sur la Grèce, elle porte sur Paris. Ces gens veulent s'assurer que la leçon de la Grèce sera bien comprise ici, à Paris.
Alors vous dites un peu comme le pape, n'ayez pas peur, vous êtes un pape de l'économie, vous dites en quelque sorte au gouvernement français, n'ayez pas peur, la France aujourd'hui emprunte à des taux très bas et au final, nous n'avons pas, selon vous, à écouter le diktat ou les diktats de l'Allemagne.
Je crois que vous avez raison. Si vous stimulez l'économie, ça fournira plus de confiance, cela fournira plus de croissance, et ce sera plus improbable d'avoir les problèmes dont vous avez peur pour l'instant.
Annabelle Gourlier.
Alors en France, pour créer de l'emploi, le gouvernement socialiste a décidé de miser sur la politique de l'offre et a donc baissé les impôts et les charges qui pèsent sur les entreprises. Vous pensez que c'est une bonne méthode, Joseph Stiglitz ?
Non.
Réponse, non.
Diminuer
les impôts des sociétés, ça ne va pas mener à plus d'investissement. Bon, marginalement 1 ou 2%, mais ça ne va pas faire la différence. Une des grandes erreurs, c'est qu'ils oublient ici que la plupart des investissements est financé par l'emprunt. Les emprunts sont déductibles d'impôts, et ça veut dire que le coût du capital, fondamentalement, est contrebalancé par les impôts qui sont imposés. Donc il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de théorie que ces impôts découragent l'investissement.
Alors ça, c'est pour l'impôt sur les sociétés. Pour l'impôt sur les revenus, Philippe Manière pense qu'il ne faut surtout pas baisser les impôts en France. Qu'en pensez-vous, vous, Joseph Stiglitz ?
Le problème principal auquel les sociétés à travers le monde font face, principalement en France, c'est le problème de l'inégalité. Qu'est-ce que ça veut dire, l'inégalité ? C'est, par exemple, c'est l'impôt après le don. C'est le revenu ou les bénéfices après impôt. Donc, par exemple, si vous accroissez les impôts sur les individus, à ce moment-là, vous accroissez l'inégalité. Un des problèmes auxquels la France doit faire face, c'est le manque de demande. Les consommateurs n'ont pas de revenus parce que l'impôt leur en prend trop. Et l'économie devient de plus en plus faible.
Philippe Manière est en train de bouillir.
Non, je ne boue pas, mais je comprends tout à fait ce que veut dire le professeur Stiglitz. En général, je pense que ça s'applique vraiment pas à la France, puisque la France, vous disiez tout à l'heure, professeur, que nous avions des particularités s'agissant des inégalités. Nous avons également des particularités s'agissant de la demande intérieure. Aussi curieux que ça puisse paraître, voilà une quinzaine d'années que le pouvoir d'achat augmente en France et que la demande intérieure est soutenue. Donc s'il y a un problème que nous n'avons pas, et on n'a pas tant que ça dont on peut le dire, c'est celui de la demande intérieure et c'est celui du pouvoir d'achat. Donc, je pense que la dernière chose à faire en France, c'est de travailler à augmenter le pouvoir d'achat. Et pour revenir à ce que vous disiez, on peut imaginer que les entreprises finissent par avoir des problèmes pour investir si leur taux de taxation est tout de même très 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 élevé. La taxation des entreprises en France se fait à des niveaux dont, pardonnez-moi de vous le dire, vous n'avez peut-être pas idée aux États-Unis parce que c'est sans comparaison. Et arriver à un certain niveau très très élevé de taxation, et depuis 4 ou 5 ans, le taux de taxation des entreprises a été largement relevé, on peut imaginer que ça freine tout de même l'investissement. Et donc, moi je ne dis pas, contrairement à ce que disait Guillaume, qu'il ne faut pas baisser les impôts. Je dis qu'il ne faut pas baisser les impôts comme veut le faire aujourd'hui le gouvernement, c'est-à-dire les baisser comme il veut le faire en ciblant sur les plus modestes, qui déjà ont du pouvoir d'achat et qui déjà ont bénéficié d'une redistribution considérable au fil des hausses d'impôts passées. S'il fallait baisser les impôts en France, peut-être faudrait-il commencer à regarder les impôts de ceux qui ont été le plus surtaxés au fil des années passées, c'est-à-dire les plus aisés. Je sais que ce n'est pas très politiquement correct, mais ça paraît tout de même logique.
Joseph Stiglitz, que pensez-vous du plaidoyer de Philippe Manière?
Historiquement, il a absolument raison. Mais ce qui s'est passé depuis le début de la Grande Récession, comme nous l'avons dit, c'est que les inégalités se sont tout de même accrues en France de façon significative. Et c'est vraiment inquiétant. Alors, que se passera-t-il avec la nature de la société française si cela continuait? La question économique de base, c'est qu'il faut stimuler l'économie, ça c'est clair. La question, c'est quelle est la meilleure manière de le faire? Est-ce que ça signifie, de mon point de vue, il faut structurer l'impôt de la manière à stimuler l'économie? Moins d'impôts pour ceux qui investissent dans la création d'emplois, moins d'impôts pour ceux qui investissent en France et des impôts plus importants pour ceux qui ne le font pas. Ça, c'est une stratégie que j'ai soutenue aux États-Unis et dans d'autres pays. Mais simplement baisser les impôts, c'est faire un cadeau. Et le cadeau, c'est que ils vont payer le PDG encore plus. Et vous avez vu l'exemple d'Alcatel, qui paye combien son PDG qui s'en va là ?
14 millions d'euros, vous avez trouvé ça très modeste tout à l'heure. Vous avez dit qu'on était petits bras en France et qu'on pouvait lui donner beaucoup plus. Justement, à ce propos, Joseph Stiglitz, dans votre livre « La grande fracture », vous citez la célèbre phrase de Warren Buffett : « il y a une lutte des classes et ceux qui l'ont gagnée, ce sont les miens, autrement dit, les riches. Cela signifie-t-il qu'on puisse continuer à appliquer une grille de lecture marxiste à l'économie d'aujourd'hui ?
Il utilisait ça de façon extrêmement métaphorique. C'était pas une analyse marxiste classique, mais il avait vraiment. Il soulevait un point très important. Il y a des différences extrêmement importantes dans nos sociétés. Quand vous voulez utiliser le système des classes, il y a des différences énormes. Mais dans un des articles qu'il y a dans ce livre, c'est les différences entre les très peu qui sont au sommet, les 1%, et les 99% qui sont dans le reste de la société. C'est cette grande différence sur laquelle il mettait le point, et sur laquelle je mets le point aussi.
Brice Couturier.
Et précisément, il y a dans le monde intellectuel, américain comme européen, il y a des gens comme les marxistes qui veulent renverser le capitalisme, et puis il y en a d'autres comme les keynésiens comme vous qui veulent l'améliorer. Vous voulez réguler le capitalisme puisque les marchés, vous dites-vous, sont incapables de s'auto-réguler eux-mêmes. Alors, jusqu'à quel point peut-on réguler le capitalisme, laisser l'État intervenir dans le fonctionnement des marchés sans transformer progressivement le système et passer du capitalisme au socialisme tout en prétendant améliorer le capitalisme ?
Joseph Stiglitz.
That's a very good question.
Excellente question.
My view is that you want
Mon point de vue, c'est qu'il faut avoir les incitations pour faire fonctionner le marché, mais il faut reconnaître que le marché, souvent, impose des choses au reste de la société. On parle de la pollution, on parle du réchauffement global. Nous avons beaucoup de sociétés qui sont engagées dans des histoires de monopole. On a vu les affaires avec certains prêts. Il faut éviter les excès du marché qui permettent aux incitations du marché d'offrir de nouveaux produits. Mais il y a un rôle fondamental pour le gouvernement, pour les États. La recherche sera toujours faite sur des fonds d'État. Les grandes découvertes, l'ADN, le laser, toutes ces recherches ont été menées sur des fonds d'État. Donc Marx a écrit il y a 150 ans, dans une étape extrêmement jeune de notre développement, avant d'avoir créé le type d'économie scientifique dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et aujourd'hui, il faut un modèle différent, et c'est cette combinaison dont j'ai parlé, d'une économie de marché forte, mais aussi d'un État, d'un gouvernement qui fournit certaines choses, comme la réglementation et la recherche fondamentale et l'éducation.
Philippe Manière.
Je voudrais revenir sur les inégalités. Je me demande si on ne passe pas à côté tout de même de ce qu'on pourrait appeler une bonne nouvelle. Les inégalités, depuis une trentaine d'années, en particulier aux États-Unis et au Royaume-Uni, ne cessaient d'augmenter sur à peu près toutes les mesures possibles. Et puis voilà que depuis 10-15 ans, alors il continue à y avoir un vrai sujet qui mérite évidemment notre intérêt, c'est que les 1% continuent à diverger de plus en plus du reste de la société. En revanche, sur les mesures d'inégalité plus classiques, par exemple quand on rapporte les 10% les plus riches au reste de la société, ça se corrige, les inégalités diminuent. Et c'est vrai aux États-Unis comme au Royaume-Uni, où pourtant c'était parti très fort en termes de divergence. Est-ce qu'on n'est pas en train de parler d'un problème du passé quand on parle des inégalités, sachant que, ben voilà, elles ont beaucoup augmenté, puis elles ont commencé à diminuer.
Joseph Stiglitz. Et ouais. Philippe Manière vous passe un petit schéma.
Qui n'est pas le mien, c'est extrait de The Economist, mais c'est des sources d'un think tank très crédible.
Il y a de très nombreux indicateurs qui permettent d'estimer les inégalités. Mais la plupart de ces indicateurs, ces indices, suggèrent que les États-Unis ont différentes dimensions de l'inégalité. Le revenu moyen est plus bas aujourd'hui qu'il l'était il y a 25 ans. Ça, c'est un problème fondamental des gens qui sont vraiment dans les classes moyennes. Il y a le paupérisme a augmenté, le pourcentage de la population qui est près du milieu de l'échelle a décru. Donc, on fait passer les gens d'un côté Et de l'autre, il y a extrêmement plus de gens vers le bas de l'échelle et très très peu vers le haut de l'échelle. Peu importe la façon dont on le considérait, il y a plus d'inégalités. Il y a même plus d'inégalités dans la richesse. Il y a plus d'inégalités d'opportunités, d'occasions. Les perspectives de vie des jeunes Américains dépendent plus des revenus et de l'éducation de leurs parents que dans d'autres pays. Et ça s'empire. Et nous avons des inégalités de santé parce que notre système de santé est privé. Donc chaque dimension de l'inégalité aux États-Unis empire. Et donc c'est pas simplement le 1%. Mais ça, c'est un des points sur lesquels on met l'accent. Ce n'est pas simplement un problème du 1%. C'est le problème de la solidarité. Le 1%, c'est simplement le symbole. Mais c'est un problème beaucoup plus vaste.
Et puis, on voulait vous faire entendre la voix de quelqu'un qui nous intrigue beaucoup, nous, Français, un certain Donald Trump, Joseph Stiglitz.
Je n'ai besoin de l'argent de personne. J'utilise mon propre argent, pas celui des lobbies, pas celui des donateurs, je m'en fiche. Je suis vraiment riche. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et d'ailleurs, je ne dis même pas ça pour me vanter. C'est de ce type de façon de penser que notre pays a besoin. Nous devons rendre ce pays riche. Ça peut avoir l'air sans scrupule. Quelqu'un m'a dit que c'était sans scrupule. Pour moi, ce n'est pas le cas. Nous avons une dette de 18 milliards de dollars. Nous n'avons que des problèmes. L'armée a besoin de matériel, nos armes nucléaires sont obsolètes. Nous n'avons rien. Notre sécurité sociale va être détruite si quelqu'un comme moi ne ramène pas de l'argent dans ce pays. Tous ces gens veulent supprimer la sécurité sociale. Je ne veux pas qu'elle disparaisse. Je vais ramener de l'argent et on va la sauver.
La voix de Donald Trump qui met tout le monde de bonne humeur dans le studio. Joseph Stiglitz, si Trump est investi par le Parti républicain, est-ce que vous allez voter pour lui ?
Absolument pas. Il produit beaucoup d'amusement, pas seulement en France, mais aux États-Unis aussi. Une des raisons pour lesquelles il a tellement de succès, c'est le candidat numéro un dans le Parti républicain, c'est qu'il est considéré comme disant la vérité. Il a beaucoup de pouvoir parce qu'il a beaucoup d'argent. Il parle du système fiscal, du système d'imposition. Il bénéficie d'allègements fiscaux qui sont donnés, par exemple, aux gens dans l'immobilier. Donc c'est très important et très intéressant. Il a critiqué les allègements d'impôts pour les autres, pour les fonds spéculatifs. Il y a certains problèmes intéressants où il dit que, et c'est ce dont on parlait avec M. Manière précédemment, c'est qu'il devrait y avoir des impôts plus élevés sur les sociétés qui investissent à l'étranger et moins d'impôts pour les sociétés qui investissent aux États-Unis.
Peut-il être élu, Joseph Stiglitz ? Trump peut-il être élu ?
Je ne pense pas qu'il puisse être élu président, mais je pense qu'il puisse être investi par le Parti républicain.
Brice Couturier.
Reste que face aux deux favoris en liste, à savoir Hillary Clinton et George Jeb Bush, qui apparaissent tous les deux comme des héritiers, hein, l'un est le frère et l'autre est l'épouse de président, ancien président d'exercice, et Trump, évidemment, incarne une espèce de populisme. Mais je voudrais vous parler de quelqu'un d'autre, c'est Bernie Sanders. On a enfin à gauche aux États-Unis au Parti démocrate, un socialiste déclaré qui part avec de bonnes chances d'élection. Est-ce que c'est votre candidat à vous qui êtes de gauche, donc ?
La bonne nouvelle, c'est que tous les candidats démocrates jusque-là se sont engagés sur un agenda progressiste, disons-le, qui réagissent aux problèmes dont on a parlé ici. Ils ont tous dit que l'inégalité était un de nos problèmes principaux, que nous avions une économie déformée. Mais ce qui est intéressant, c'est que personne ne dit parce que Bernie Sanders est un socialiste. Ah non, nous, lui, on ne peut pas l'avoir. Non, non.
Vous le soutenez ? Vous le soutenez ou pas ? Vous soutenez Bernie Sanders ?
Moi, je soutiens tous les candidats qui s'engagent à un agenda progressiste de réduire les inégalités et accroître les opportunités, créer une société qui est cohérente avec le rêve américain de d'assurer l'opportunité égale à tous, quels que soient leurs revenus, les revenus de leurs parents. Je travaille de très près avec Bernie Sanders et sur beaucoup de problèmes comme l'amélioration du système de santé, et pas simplement aujourd'hui, mais quand il était sénateur. Donc, ce dont il parle, ce sont des choses qu'il promeut depuis des années.
Joseph Stiglitz, Barack Obama, vous est-il déçu?
Oui. Malheureusement, il a trop cru dans l'économie du ruissellement. Il a jeté de l'argent aux banques. Il a espéré que cela ferait reprendre l'économie. Ça a été une reprise extrêmement faible. J'étais à Jackson Hole et il y avait une manifestation énorme devant ce bâtiment. Quelle reprise, disaient les manifestants. 99% des profits et des bénéfices entre 2009 et 2013 sont allés au 1% au sommet. Ça veut dire que les 99 restants n'ont rien vu de la reprise. Les gens ont été éjectés de leurs maisons. Mais sur les 700 milliards de dollars qui ont été donnés aux banques, très très peu d'argent est allé pour sauver les propriétaires, les petits propriétaires de leurs maisons.
On revient en Europe avec vous, Annabelle Grelier.
Oui, vous êtes plutôt pessimiste sur la zone euro, Joseph Stiglitz. Vous avez déclaré cet été que l'Allemagne avait porté un coup sévère et ébranlé l'Europe par son attitude dans la crise grecque. Est-ce que vous pensez que l'Europe aujourd'hui devrait abandonner la monnaie unique ?
Well, I think it either has to create a real union.
Eh bien, soit il faut créer une véritable Union européenne, ou alors il faut abandonner l'euro. Ce mi-chemin est en train de paralyser la croissance économique en Europe et créer plus de divisions. La raison pour laquelle l'euro a été créé, c'était pour promouvoir la prospérité et l'unité européenne. Et ça fait exactement l'inverse. Donc, certaines des choses qui doivent être faites, sur laquelle l'Europe est d'accord, c'est une union bancaire, mais la vitesse à laquelle c'est fait, c'est tellement lent. C'est que les dommages permanents sont causés avant que ça soit fait. Et par exemple, il y a l'obligation européenne qui n'est même pas à l'ordre du jour, les bons européens. Donc, comment est-ce que 50 pays peuvent avoir, aux États-Unis par exemple, 50 États ont la même devise? Parce qu'on a une union bancaire, on a une unité et on a une seule voix. Et ce sont les mesures que les pays européens refusent d'adopter. Et ce mi-chemin n'est pas viable.
Donc à ce regard-là, vous êtes optimiste ou pessimiste sur la zone euro ?
Pessimiste. Parce que le problème, je ne vois pas le consensus politique nécessaire pour mener les réformes. L'Allemagne dit, on n'est pas une union pour les transferts monétaires. Et si vous ne pouvez pas aider qui souffre le plus, alors vous n'êtes pas une union. Et si vous n'êtes pas une union, vous ne pouvez pas avoir une monnaie unique.
Merci beaucoup, Joseph Stiglitz, d'avoir été avec nous pour ces matins. La grande fracture, c'est le livre que vous publiez aux éditions des Liens qui libèrent. J'ajoute que la traduction a été assurée par Michel Zlotowski.